toi? Tu lis quoi, toi? Vous lisez quoi, vous? Nous lisons quoi, nous?
Que la fête où personne ne vient, il y a la fête où ne se pointent que les deux personnes les plus ennuyeuses de la terre. Ils sont partis et je suis resté sur le canapé avec mes parents, les yeux rivés sur l'écran noir de la télé, mourant d'envie de l'allumer, mais sachant que je ne le devais pas. J'ai senti leur regard posé sur moi. Ils s'attendaient sans doute à ce que je fonde en larmes ou quelque chose du même ordre, comme si je n'avais pas pensé depuis le début que ça se passerait comme ça. Je n'en avais pas douté une seconde. Ils devaient me plaindre en plongeant leurs chips dans la sauce artichaut initialement prévue pour mes copains imaginaires. Mais ils étaient plus à plaindre que je ne l'étais. Je n'étais pas déçu. Mes attentes avaient été comblées. « C'est pour ça que tu veux partir, Miles ?» a demandé ma mère. J'ai réfléchi quelques instants en m'efforçant de ne pas le regarder. « Non » ai-je répondu. « Alors c'est pourquoi » a-t-elle insisté. Ce n'était pas la première fois qu'elle posait la question. Maman n'était pas particulièrement emballée à l'idée de me laisser partir en pension et n'en faisait pas mystère. « C'est à cause de moi ?» a demandé papa. Il avait fait ses études à Culver Creek, le fameux pensionnat où j'allais, comme ses deux frères et tous leurs enfants. L'idée que je marche dans ses pas n'était pas pour lui déplaire. Mes oncles m'avaient raconté qu'il s'y était taillé une sacrée réputation en conjuguant réussite dans toutes les matières et chahut monumental. La vie y semblait plus intéressante qu'en Floride. Mais non, ça n'avait rien à voir avec papa. Enfin, pas tout à fait. « Ne bougez pas, » ai-je dit. Je suis allé dans son bureau prendre la biographie de François Rabelais. J'adorais les biographies d'auteurs, même si, comme c'était le cas avec Rabelais, je n'avais jamais lu aucune de leurs œuvres. J'ai feuilleté les dernières pages à la recherche de la citation soulignée. « Je t'ai interdit de souligner mes livres », m'avait-il recommandé des centaines de fois. Mais comment trouver ce qu'on cherche autrement? Donc ce type, ai-je dit, de la porte du salon, François Rabelais, le poète, a dit sur son lit de mort « Je pars en quête d'un grand peut-être ». Voilà ma raison. Je ne veux pas attendre d'être mort pour partir en quête d'un grand peut-être. Et ils ne m'ont plus posé de questions. J'étais en quête d'un grand peut-être, et tous deux savaient aussi bien que moi que ce n'était pas au contact des semblables de Will ou de Marie que je les trouverais. Je retournais m'asseoir sur le canapé entre mon père et ma mère. Papa a posé son bras autour de mes épaules, et on est resté comme ça, sans rien dire, pendant un long moment, jusqu'à ce que personne ne voit plus d'inconvénient à ce qu'on allume la télé. Alors on a mangé des chips à la sauce artichaut, en regardant la chaîne historique, et au palmarès des fêtes d'adieu, celle-ci n'était certainement pas la pire. Cet extrait est une partie du premier chapitre du livre « Qui es-tu, Alaska ?» de John Green. Ça tombe bien, c'est un roman que nous sommes nombreux à avoir adoré à sa sortie. Je crois bien qu'il fait même partie de ces livres un peu exceptionnels, comme on n'en a pas si souvent que ça. Un livre qui peut marquer les esprits, dont on peut se rappeler les expressions, les formules. Je suis pas doué en citation, mais celle-ci m'a marqué. Je pars en quête d'un grand peut-être. Et je pense qu'elle a dû marquer plusieurs générations de lecteurs. Et parmi eux, je suis même sûr qu'il y a Tom et Nathan Lévesque, les auteurs du livre En quête d'un grand peut-être. Et vous savez quoi, chers auditeurs d'Oliquanou? Eh bien, Tom et Nathan Lévesque, ils sont avec nous pour cette émission. Bonjour Tom, bonjour Nathan.
Bonsoir.
Bonjour.
On est très heureux. Bonjour Véronique.
Bonjour Monsieur Simon.
Bonjour Philippe qui ne nous répond jamais mais qui fait la technique. On est très heureux aujourd'hui parce que pour notre 40e émission, c'est notre...
C'est un beau cadeau.
On a un cadeau, c'est vous.
Ben, ça nous fait plaisir. On se sent comme des stars nationales.
Donc, ce que je vous propose, c'est d'embarquer pour cette 40e épisode dans l'Iquanou avec vous, Tom, Nathan. Évidemment, on va parler d'Enquête d'un grand peut-être, votre guide de littérature ado qu'on s'est tous arraché à sa sortie. On va parler aussi de la carte que vous venez de publier, qui vient de sortir ces derniers jours en commercialisation, en fait, que vous avez fait autour de votre sélection de livres. Et puis, on va parler aussi de vos coups de cœur, comme on le fait d'habitude. Et évidemment, comme d'habitude, nous, on commence en musique. Alors, aujourd'hui, le chef, c'est Pascal Parizeau. Alors, on écoute un Pascal Parizeau.
À quoi ça rêve un chat? Ça rêve d'une mer de croquettes, ça rêve d'une plage de croquettes, d'un crocotier plein de croquettes. Ça rêve d'une glace à la croquette. À quoi ça rêve un chat? Ça rêve d'une montagne de croquettes. Ça rêve qu'il neige des croquettes. Ça rêve d'un bonhomme de croquettes, d'une bataille de boules de croquettes. À quoi ça rêve un chat? Ça rêve de jouer à la roulette, de miser deux ou trois croquettes, d'empocher une somme coquette, une somme coquette de croquettes. À quoi ça rêve un chat? Les chats qui parlent en dormant se trahissent unanimement. Tous les chats rêvent en cachette de rencontrer Davy Croquette. Croquette, la première fois que je t'ai vu, je t'ai aimé. Et mon amour pour toi, Croquette, est toujours aussi fort. Je sais, tu m'as surpris un jour avec une boîte de thon, mais tu sais, ce n'était qu'une passade. Au fond, il n'y a que toi qui compte vraiment, Croquette. Je t'aime, Croquette. Je t'aime quand tu te parfumes au bœuf, au poulet, au lapin. Croquette, tu es la croquette de ma vie. Je ferai un domaine où la croquette sera roi, où la croquette sera loi, où tu seras reine.
Ah, Pascal Parizeau, avec le titre « À quoi ça sert un chat ?» Ce titre, c'était dans l'album « Super chat », qui était publié en 2017. Pascal Parizeau, c'est un artiste qu'on aime bien, qui n'était pas du tout destiné, comme beaucoup de musiciens en fait, jeunesse, à faire de la jeunesse. En gros, il faisait d'abord un peu comme Anne Sylvestre, il faisait des chansons. Lui, était plutôt, il vient de la guitare classique, et puis de la rumba, des musiques sud-américaines. Et puis, il a sorti deux albums qui n'ont pas eu des gros succès pour les grands. Et puis un jour, il a décidé de changer d'optique et faire des albums pour les enfants. Son premier, c'était Les Pieds dans le Plat, qui était sorti chez Naïve, et qui était très très drôle sur tout ce qui est nourriture et tout. Notamment, il y a le célèbre Les Poissons Panés, qui est un de ses tubes que beaucoup de parents connaissent. Et puis, il avait fait Bête en Stock. Et puis, en 2017, il a eu le succès avec ce Super chat. Bon, voilà. En tout cas, on écoutera quelques morceaux pendant l'émission, comme on a l'habitude. Ça fait toujours plaisir de parler de ça. Je reviens quand même sur mes deux invités parce que qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont.
Et qui n'y croient pas.
Qui ont vécu dans un autre monde et qui ne connaissent pas Tom et Nathan, l'évêque. Donc, juste pour resituer un peu qui vous êtes, tous les deux, vous êtes des blogueurs à la base. Vous avez chacun un blog, La Voix du Livre pour Tom et puis le cahier de lecture de Nathan pour Nathan.
Pas très tout est logique.
Il faut dire que vous les avez commencé quand vous aviez 13 ans, c'est ça, 12-13 ans.
Ouais. Et le pire, c'est que ça a changé de nom. Au tout début, mon blog s'appelait Bouquin en folie, ce qui était encore moins original.
Il y a aussi des chaînes YouTube. Nathan, bah, tu l'as depuis... C'est toi qui l'as fait le premier.
Ouais, ça doit faire 10 ans, je pense. Au début, c'était plus un complément du blog, puis c'est devenu un peu mon média principal.
Oui, c'est ça. Comme la plupart des blogueurs, en fait, c'est devenu souvent les vidéos ont pris le pas en fait sur les articles.
J'ai suivi le mouvement.
Et Tom, toi, tu avais créé la boîte à mots avec.
Ouais, moi, c'était un projet à part avec Camille, qui venait du cinéma, et on a fait vraiment un projet à part pendant 3 ans, je crois. Et puis voilà, après ça s'est arrêté.
Puis là, ça s'est arrêté, voilà. De manière... Avec une très belle fin, d'ailleurs. Voilà. Une vraie clap de fin, en fait, sur le dernier. Sur le dernier. Tous les deux, donc, vous êtes d'abord des passionnés de la littérature jeunesse, baignés dedans depuis que vous êtes tout petit. On a vu plusieurs... C'est quand on regarde un peu vos bios, on voit plein de vieilles photos qui traînent. Vous avez écumé tous les salons du livre, notamment à Montreuil, parce que vous êtes de province, mais vous montiez, en fait, à Montreuil pour voir vos écrivains préférés, c'est ça ?
Exactement. Ouais.
On y a été pour la première fois en 2008, donc nous on avait 11 ans et voilà. et notre mère nous avait dit économisez votre argent de poche, à la fin de l'année on va à Montreuil.
Il y avait l'ambition, en fait, c'est ça.
Ouais, et nous on connaissait déjà, je sais même plus
c'est
comment,
les enfants, mais, en fait, ils vont à Disneyland, vous allez à Montreuil.
C'est ouais, ça, c'est ça, exact.
On a économisé, disons, toute la deuxième partie de l'année.
C'est ça.
Tout notre argent de poche était
prêt.
Ouais, c'était le Noël avant Noël et on y a été de plus en plus chaque année. Même les dernières années, on avait même le droit de rater des jours de cours pour aller plusieurs jours à Montreuil.
Vous avez séché pour aller à Montreuil. Waouh.
Mais on a séché avec l'aval du CPE, tu vois. D'accord. C'était vraiment du séchage autorisé.
Avec l'aval du CPE.
Ouais, c'était... C'est on beau. Était des rebelles
avec
un peu sages.
Il fallait rendre compte après.
Non, mais on expliquait que c'était une démarche professionnelle.
Ce qui n'a pas manqué, puisque d'ailleurs, après, vous avez tous les deux fait des études dans les métiers du livre, hein, oui. À Bordeaux, le DUT métiers
comme
du livre.
Toi.
Comme moi, tout à fait.
Comme vous, pardon, monsieur Simon.
Oui, oh. Oui moi quand oh même, là, un petit peu de sérieux quand même.
Ouh, oui.
Et ensuite, vous avez continué donc, dans cette voie, des voies un petit peu différentes, plutôt la com pour,
ouais, plutôt
pour Nathan.
Pour moi et Tom.
Et plutôt édition pour Tom, c'est ça.
Exactement.
Et puis maintenant, bah, vous êtes professionnel de la profession, on va dire. Hein. Tom, toi, t'as bossé pour des maisons d'édition.
J'ai bossé pour des maisons d'édition jeunesse et après, j'ai tout quitté.
Voilà.
Pour lancer avec pour lancer avec Nathan donc notre maison d'édition et les éditions du Grand Peut-être.
Voilà.
Et pour écrire.
Parfait. Et Nathan, toi tu continues
ouais pour ma part toujours je bosse pour babelio.com qui est un réseau social de lecteurs, donc plutôt web marketing et à côté cette activité avec Tom d'éditeur et d'auteur et de youtubeur aussi d'un autre côté et de chroniqueur pour d'autres médias à côté, bon, on dort pas beaucoup.
Non, c'est ce que j'allais demander.
Bah après, on parlera aussi des conséquences hein, de ce guide, parce que j'imagine que ça a un peu bouleversé aussi votre vie professionnelle. Hein. Voilà, si vous êtes quand même au micro dans l'Iquanou, c'est quand même que vous avez franchi un cap.
On a franchi des étapes. Voilà,
Oui, dans les chaînes, presse, quotidien, on lit pas nous.
Moi, c'est ça. Moi, je mettais ça. Télérama, Le Monde, quotidien, on lit pas nous. Voilà. Il fallait que ce soit aujourd'hui. Donc, en tout cas, on est très, très
heureux. On peut tout arrêter après.
Vous accueillir. Et puis, on va commencer l'émission avec, comme d'habitude, un peu d'actualité. La littérature
de la jeunesse.
Voilà, ça, c'était un slogan. Non, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, comme vous avez remarqué.
Non.
C'est magnifique.
On fait nos slogans.
Incroyable.
Et l'actualité, pardon. De ce dernier mois, c'est évidemment les Bologna Ragazzi Awards, hein, n'est-ce pas ? C'était le salon de Bologne.
D'accord.
Et on peut dire que le CRU de 2022 a un peu célébré la littérature francophone, hein, puisque si on rajoute aux Français les Québécois, eh ben on a quasiment trusté tous les grands prix. Ce qui montre quand même une espèce d'état très positif en fait de cette littérature de jeunesse en France, qu'elle soit graphique ou littéraire d'ailleurs, hein, puisque si on revient un petit peu sur les lauréats en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même eu beaucoup de Français à être récompensés. Bernard Gervais qui a eu une des mentions spéciales pour les albums documentaires, pour les citer un peu rapidement. Le grand prix en catégorie fiction, c'est à qui appartiennent les nuages, écrit par Mario Brassard et illustré par Gérard Dubois, qui est un auteur français, même s'il vit à Montréal, publié chez La Pastèque. Dans les mentions spéciales de la fiction, on a le Fête Chamos de Gilles Baume et Régis Lejon, publié aux éditions des Éléphants. La première œuvre, la lauréate, c'est Les Reflets d'Ariette de Marion Cady, publié à La Grume. En bande dessinée, qui gagne ? Bam ! Encore des Français. Allez, bienvenue à Bibiville, d'Éponine Côté, aux éditions 2024. En plus, c'est cool parce que c'est des éditeurs qu'on aime bien. Enfin, ouais. On n'est pas chez les très gros éditeurs. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir. C'est comme La Pastèque qui gagne deux prix à Bologne. C'est vraiment chouette. On a aussi Magali Lehuche, hein, bien connue ici pour son Over Girl qu'on avait présenté d'ailleurs, Véronique. Publié chez Dargo. On a aussi le magnifique Poli d'Isabelle Pralong Fabrice Melchiot qui est publié à La Joie de Lire. Donc voilà, une vraie ambition aussi éditoriale de montrer une autre forme de BD et puis un autre propos aussi, d'autres sujets aussi abordés. Enfin voilà, il m'en manque. Oui, il manque évidemment la poésie avec. On est content aussi pour cette maison d'édition, les éditions Bruno Doucet, qui ont été récompensées par le biais d'Immenses sont leurs ailes de Muriel Zach et Nathalie Novi, qui a eu le prix
entre les deux.
En poésie. Ouais, et puis une mention aussi pour un éditeur qu'on adore ici, qu'on a beaucoup présenté, qui s'appelle Le Port à Jauny. Je crois que vous nous en parlez tout à l'heure, Véro.
Ouais.
Pour l'ensemble de son œuvre, c'est vrai que Mathilde Chev avait fait un travail absolument magnifique depuis des années pour publier ses recueils de poèmes en français et en arabe dans des très beaux petits livres, en fait, avec beaucoup de sensibilité. Et donc, c'était aussi l'occasion de montrer un peu la force de cette édition française. Hein. Je crois que là, on peut faire un petit cocorico. On a le droit de le faire. On a des bons éditeurs, on a de très bons auteurs. Forcément, c'est agréable qu'une grande cérémonie internationale les récompense. Et puis surtout, pour ces auteurs, c'est aussi sans doute la certitude d'être peut-être traduit, d'avoir d'autres, de vivre d'autres choses. Donc,
une fenêtre ouverte sur le monde.
Pour une fois qu'il y a un truc qui va bien, on va quand même le dire.
Mentionnons-le.
Ah,
c'était le côté positif.
Ah, parce que le reste, non.
Si, il y a plein d'autres choses positives puisque nous sommes avec les frères Lévesque, je vous le rappelle.
Mais oui, voilà. Parce que là, ça fait court quand même pour du positif.
Allez, on va parler maintenant d'albums. On va commencer avec un album qu'on avait envie de trouver, de mettre en avant aussi, puisque c'est une autrice ukrainienne. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Et oui, je vous ai piégé. Vous aviez sorti un autre album, mais non, c'est celui-là. L'album s'appelle L'idée du siècle de Katarina Saad. Voilà. C'est publié chez Alice.
Alors, comme vous m'avez piégé, je tourne mes petites feuilles.
Voilà,
faire un petit
je vous ai mis complètement dans la mouille. Voilà.
J'allais faire une blague, j'allais dire on quitte le positif pour l'Ukraine, mais finalement, c'est bien
mais
ça.
Mais non, c'est quelque chose d'aussi assez positif, très positif même comme histoire. Mais c'est vrai que c'est pas par hasard si je l'ai amené aujourd'hui. Il se trouve qu'il doit en exister d'autres, des auteurs édités en France en jeunesse aussi. J'en vois quand même assez rarement. Et là, j'ai vu qu'elle venait d'Ukraine. Elle s'appelle Katarina Saad. Elle a dû éditer deux ou trois livres. Ils ne sont pas tous édités en France. Et là, cette idée du siècle, en plus, a une résonance aussi un peu avec ce qui arrive à ce pays. Il se trouve qu'une ferme au milieu de ces grandes plaines magnifiques est abandonnée. Elle a été subitement abandonnée par ses habitants qui sont partis. Et dans cette ferme, il reste des canards. Un sacré troupeau de canards quand même. Et ces canards se disent quand même, c'est très malin un canard, parce qu'ils se disent, si on reste dans l'état... personne ne va venir nous nourrir, s'occuper de nous. Si on veut vraiment rester ensemble, il faut qu'on trouve un propriétaire, enfin quelqu'un qui veuille bien réinvestir la ferme et s'occuper de nous. Sauf que pour trouver cette personne, il faut savoir écrire. Enfin, il faut faire une petite annonce et savoir écrire. Et il tente l'expérience de l'apprentissage de l'écriture. Sauf qu'avec des ailes de canard, c'est pas facile. Donc, c'est bien montré que c'est pas facile d'écrire avec des ailes de canard, parce qu'ils essayent de faire comme les humains.
Faut pas beaucoup d'efforts non plus.
Quand même, moi je trouve que vous êtes mauvaise langue.
D'accord. C'est mon rôle dans l'émission, très mauvaise langue et je pourris toutes les chroniques de.
Non, pas toutes. Je sais me défendre. Et bref, et donc. Sauf que sur le beau papier qu'ils ont trouvé, il y a, avec la fameuse encre qu'ils ont fabriquée, la trace de leurs ailes qui devient véritables œuvres d'art. Et un jour, un hérisson tombe sur une feuille avec une belle reproduction d'encre à l'encre de l'aile du canard. Et il s'est dit, mais c'est magnifique, c'est absolument magnifique. Et toute la forêt vient leur acheter leur production d'œuvres d'art. Donc finalement, ils ont de l'argent, ils rachètent la ferme et ils créent une imprimerie. Voilà. Tout en apprenant à écrire. Alors, en plus, les dessins sont vraiment extrêmement joyeux, lumineux. J'ai imaginé là, parce que je ne peux pas dire que je m'intéressais énormément à la géographie de l'Ukraine avant les événements. Et là, j'ai imaginé être en Ukraine, être dans ces grandes plaines. Il n'y a pas un humain, c'est sûr, mais il y a ces animaux extrêmement drôles. En plus, ils ont des bouilles, mais alors, pas possible. Alors voilà, les œuvres d'art, alors c'est les pattes, hein, mais il y a des traces d'ailes. Enfin, voilà. Et on va troquer nos torchons contre de la nourriture, tout ça. Enfin, c'est sur des torchons, c'est pas sur du papier. Voilà, donc je voulais remercier Katharine Assad.
Et les éditions Alice, évidemment.
Alice, de... jeunesse. Voilà. Voilà, autrice ukrainienne. Et c'est chouette que ce soit une autrice ukrainienne qu'on puisse présenter ce soir.
Tout à fait. Voilà. Comment voulez-vous enchaîner après ça? Eh bien, je vais le faire, comme d'habitude, avec aucune transition. Vous parlez d'un auteur que j'admire, que j'adore, voilà, qui s'appelle John Classen. Et vous parlez de son dernier album qui s'appelle Le Rocher tombé du ciel. C'est publié chez Pastel. Et John Classen, en fait, on le connaît, hein, c'est un artiste canadien qui nous avait vraiment fait beaucoup rire avec ce que j'appelle la trilogie du chapeau publiée chez Milan. Je veux mon chapeau, ce n'est pas mon chapeau, on a trouvé un chapeau, où il mêle à la fois l'absurde, la philosophie, l'humour décalé, avec une simplicité de propos, mais aussi dans le graphisme, qui est assez, assez marquante, toujours ces teintes très ocre. Voilà, c'est toujours très délicat, on n'est jamais dans le pimpant, mais par contre, il se passe toujours quelque chose et ça se passe par un regard. Il a un jeu sur les yeux, notamment, où tout se croise. Eh bien, j'ai envie de dire, le dernier livre paru, Les Rochers tombés du ciel, c'est un petit peu la somme de tout ce qu'il a fait depuis pas mal d'années. On l'avait vu aussi dans Triangle, Carré, Paris Trilogie qui était paru chez Pastel. Mais dans Le Rocher tombé du ciel, on a tout ça mélangé. On a ces thèmes principaux qui sont là, qui sont l'attachement au lieu, comment partager son territoire, le rapport à l'autre, est-ce que l'autre est mon ennemi, mon ami, les interrogations par rapport à la possession, par rapport à ce qui appartient. En gros, on va suivre quelques personnages qui vont cohabiter, qui veulent ne pas vivre ensemble, puis qui veulent vivre ensemble, et puis qui, voilà, avec une menace. Et cette menace, en fait, c'est cet énorme rocher qui est potentiellement peut leur tomber dessus.
Damoclès.
Le rocher de Damoclès, évidemment, bien connu hein, de tous les mythes de la mythologie. Et donc, on est vraiment sur un jeu de ça se passe sur du rien, ça se passe effectivement sur un regard, sur juste un petit détail, sur un personnage qui va bouger et puis le rocher qui tombe juste la seconde d'après avec tous les autres qui regardent derrière en disant « Oups, voilà ».
C'est pas moi.
Voilà. En tout cas, c'est
vrai que c'est joyeux.
C'est hyper fort. Non, mais c'est hyper fort, en tout cas, dans la narration. Parce que c'est un album qui est assez long, hein, quand même. La pagination, je ne sais plus combien il y a de pages, mais ça reste quand même assez conséquent. Donc il y a tout un tas de retournements de situation qui, en plus, vont au bout de l'histoire. Enfin, c'est un vrai plaisir. Donc, je crois que Tom, tu l'as lu aussi.
Ouais. Non, c'est ça. Mais nous, on l'a lu, donc je dis nous parce qu'on se lit des histoires le soir avec mon amoureux. Et on l'a lu en 5 fois, en 5 soirs.
Ah oui.
Parce que c'est.
Il y a des chapitres. Ouais. Ah oui, il y a des vrais chapitres.
C'est comme 5 histoires qui en font une, mais on peut les. Voilà,
nous, on peut les lire 5, de manière séparée complètement, ouais. Et c'est moi j'adore hein, franchement ouais. il a cette capacité à chaque fois de se renouveler tout en restant dans les thématiques qu'il maîtrise.
Ouais, et puis sur la narration visuelle comme tu dis, d'une page à l'autre, il se passe pas grand-chose mais tout est voilà dans les regards dans le rocher qu'on voit, la complicité avec le lecteur aussi.
Puis c'est flippant hein, des fois il y a un petit côté métaphysique là, ce rocher quand même, il est un petit peu flippant quand même,
enfin, bien bon. Sombre.
Mais il est toujours un peu sur moi aussi John Classen, c'est un de mes auteurs illustrateurs préférés et c'est vrai qu'il est toujours un peu sur c'est là qu'il est fort, sur la frontière entre le truc très drôle et un peu absurde et en même temps sur quelque chose d'hyper profond et un peu vertigineux. C'est vrai que c'est là qu'il est fort. Ouais.
Ouais, et puis dans la relation de ces personnages qui sont, on sait jamais trop, des fois c'est un peu gênant,
c'est des sens
côté un peu malaisant dans les, oui. dans les relations oui. entre les personnages. Je pense par exemple aux deux non c'est des tortues ou c'est oui, c'est les deux tortues avec qui oui. voient le chapeau qui est oui. loin là, et qui veulent pas y aller. Tout. Enfin, voilà, donc, à la fois, on sait exactement ce que l'autre pense, mais on dit le contraire. voilà, donc,
Puis il a toujours quelque chose d'un peu inquiétant. Il a aussi illustré un livre de Lemony Snicket, Le Noir, chez Nathan, qui est absolument génial. Enfin, il est très puissant, en fait, et qui parle de la peur du noir et qui permet d'apprivoiser la peur du noir, mais en même temps, tout l'album est inquiétant, même la fin, qui pourtant se finit bien.
Qui s'appelle Le Noir, l'album.
Ça s'appelle Le Noir,
ouais,
je crois.
Chez Milan, mais je crois qu'il est en rupture actuellement. Donc un appel aux éditions Milan, si vous voulez bien l'éditer, Milan, ça serait bien. ça serait bien.
On demande la réédition. On
demande la réédition, s'il vous plaît.
Immédiate.
Non, c'est vraiment un artiste qu'on adore. Donc voilà, c'était le dernier sorti, il fallait qu'on en parle, évidemment. On continue avec les albums, avec des albums pour les grands. Et je crois que c'est Nathan qui voulait nous parler d'un grand album,
ouais.
d'un magnifique album qui s'appellerait...
Le Berger et l'Assassin, dont vous avez, il me semble, déjà parlé, mais qui pour moi est un vrai coup de cœur. Effectivement, l'un de mes derniers gros coups de cœur en album, qui a une histoire un peu particulière. C'est donc un auteur, Henri Meunier, qui a proposé, ils travaillent déjà ensemble, je crois, à Régis Lejon de lui écrire un texte en lui disant « Qu'est-ce que tu as toujours voulu dessiner et que tu n'as jamais pu dessiner ?» Et Régis Lejon, qui est un artiste bordelais, mais qui en fait vient de Haute-Savoie, je crois.
Haute-Savoie, je ne sais jamais. Par là.
Quelque part par là, mais en tout cas qui vient de la montagne. Voilà, et donc il a toujours voulu dessiner la montagne. Et donc Henri Meunier lui a écrit une histoire sur un berger et un assassin. Donc un assassin qui a fui un village et qui se retrouve recueilli par le berger. Et le berger va l'aider alors même que... il ne veut pas vraiment savoir ce qu'il a fait d'ailleurs, mais alors même qu'il ne cautionne pas le fait qu'il ait tué quelqu'un. Ils vont s'entraider et c'est une histoire sur le rapport à l'autre aussi. Et moi, ce que j'ai trouvé très malin, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que jusqu'à la dernière page, on ne voit pas du tout les personnages. On a le texte qui raconte leur histoire avec une langue très très belle, très élégante, vraiment très charmante, et en même temps qui aborde plein de thèmes hyper intéressants dans un livre pour enfants, ce que j'ai trouvé vraiment chouette. Et pourtant on voit pas les personnages, on voit juste la montagne, donc sous toutes ses coutures, lever de soleil, coucher de soleil, neige, pas neige,
incroyable.
Ouais, c'est vraiment vraiment sublime. Et voilà, j'ai eu un gros coup de cœur, donc c'est plutôt pour les grands effectivement. Les ados et les adultes peuvent aussi s'en régaler du coup.
Bien sûr, au contraire même.
Au contraire, ouais.
Ils se lisent un petit Anne-Laure Bondou, Les larmes de l'assassin.
Oui.
Après, voilà, exactement. Ils sont le berger et l'assassin. C'est la thématique assassin du week-end. Et ils ressortent.
Tu nous avais prévenu que c'était pas gay après. Hein.
Bon, vous voulez nous présenter un album gay?
Oui.
Eh bien, oui. Allez-y.
Oui. Même si.
Faites
le
la
titre...
tête. Oh, je sens que faites la tête là.
Bah ouais, je boude. Je boude. Ouais, tu m'énerves. Vous m'énervez. Suzy Boude d'Angélique Léon et Stéphane Heinrich. Heinrich, je ne sais pas. On est chez Kaléidoscope. Et voilà, Suzy, hein, on est chez les Aristochats, hein, un très bel environnement, elle a tout ce qu'elle veut. Elle vit avec trois autres chats qui sont ses frères et sœurs. Et elle est... elle boude, elle fait la gueule tout le temps. Elle a vraiment une... Voilà. Et elle est très drôle à regarder, d'ailleurs. Et finalement, moi, ce que j'ai aimé dans cet album, c'est que la bouderie est légitimée. C'est normal.
Elle est même plus que légitimée, parce que c'est une façon de vivre, en fait.
C'est une façon d'être. Voilà. C'est une façon d'être, puisque Suzy...
Dans une chanson de...
Alors, ses frères et sœurs la jettent.
Pardon.
ses frères et sœurs la jettent, parce qu'au bout d'un moment, c'est pénible, quelqu'un qui fait la gueule tout le temps. Donc, elle finit sur les toits, en train de bouder. Bah, bouder, oui. Et elle rencontre Florian. Voilà, un chat qui aime bouder aussi, qui est boudeur. Et ils vont bouder tous les deux. Ils vont bouder dans le jardin du Luxembourg. Ils vont bouder un peu partout dans Paris, d'ailleurs.
Moi, j'aime bien parce qu'ils sont hyper médisants, comme ça. Non seulement ils boudent, mais ils font des petites critiques un peu. Ça balance un peu quand même à chaque fois.
Ah oui, c'est des vraies langues de boudeur.
Regardez les autres, là.
Des vraies langues de boudeur.
Ah, et l'autre, un petit côté langue de pute.
C'est ça, de boudeur. De vilain boudeur. Sauf que, évidemment, ils vont tomber entre boudeurs. Ils vont tomber très, très amoureux, vraiment. Et ça va jusqu'au bout, puisqu'ils vont engendrer une flopée de petits chats boudeurs aussi, et qui ont des tronches pas possibles. Et c'est vraiment un petit régal. On fait des voyages sur les toits de Paris, en plus. Moi, je dis que c'était Paris. Ils parlent du café. D'un café qui m'a l'air célèbre, le café Rostand. J'ai dû entendre parler de quelque chose comme ça, je ne connais pas bien. Où on me sert souvent un bol de lait, trop froid, un peu caillé. Mais ça nous fera notre dîner, voilà. Toujours en train de critiquer un petit peu. C'est drôle, c'est anticonventionnel, évidemment. Et ça, moi, je trouve que c'est bien de parler de la bouderie. C'est important, la bouderie. Il y a des gens, on dit que c'est pas beau de bouder depuis... c'est ni beau ni moche,
c'est une façon de s'exprimer.
C'est une façon de s'exprimer, je suis d'accord.
Eh bien, nous allons continuer sans bouder et toujours sans transition, en parlant un petit peu de poésie. Et on voulait mettre un peu l'accent sur un éditeur comme l'a fait Bologne, parce qu'en fait, nous, ils ont tout copié. C'est les éditions Le Port à Jauny. Et Véro, vous avez choisi un album qui s'appelle Poème en pluche, qui est assez particulier dans sa conception.
Alors, vous allez m'aider hein, sur tous les détails, parce que je n'ai pas tout creusé. Moi, je ressens, puis après, Simon, il explique.
Il est intellectualiste.
Voilà. Ça fait plusieurs fois que ce genre de petits livres me passe dans les mains, je les ouvre, je regarde les calligraphies arabes, c'est toujours très souvent en bilingue, parce que Mathilde Chèvre, ça fait partie de sa volonté éditoriale.
En fait, c'est un éditeur qui est basé à Marseille.
Et je sais pourquoi ça s'appelle Le Port à Genis. Vous savez, je sais pas.
Non, pas du tout.
Eh ben, parce que j'ai rencontré Mathilde Chèvre et elle nous a expliqué un jour qu'à midi, le soleil descend d'une certaine façon sur le port de Marseille et les vieux, ils viennent se mettre au bord du port, les pieds dans le vide, presque au-dessus de l'eau. Et là, pendant... C'est un peu comme le rayon vert du matin. Pendant une minute à peu près, ça dure une minute, le port est jaune. Le port de Marseille est complètement jaune. Ouais. Je trouve ça tellement beau. Ouais, parce que le port a jauni comme ça, moi, ça ne me disait rien. Et quand elle a raconté ça, c'était absolument magnifique. Et puis, la ville de Marseille, comment elle en parle, elle a beaucoup d'acquaintances avec l'Égypte. Elle parle parfaitement, c'est absolument incroyable, l'arabe d'Égypte. Et donc, comment elle a porté cette maison d'édition en mettant en valeur cette langue aussi, cette calligraphie. Donc voilà, alors il y en a plusieurs qui me sont passés dans les mains. Et celui-là, alors je les ai souvent ouverts, mais celui-là, j'avais envie de le serrer contre moi, même si parfois on est avec des illustrations de Gaëtan Doremus, un petit peu, voilà, un petit peu, pas trash, mais ça déménage, hein, c'est un petit peu grinçant et tout. Sauf que Poèmes en peluche, déjà, ça m'a attiré au niveau du titre. C'est Edith Azam qui a créé ces poèmes. J'en prends juste... c'est presque des haïkus. Hein. On est sur... c'est un petit silence qui grelotte et qui rêve qu'on lui offre un pyjama, un mot doux et douillet afin qu'il n'ait plus froid, qu'il cesse de trembler. C'est étrange tout ça. C'est étrange, n'est-ce pas, un silence tremblé. Voilà, c'est des petits morceaux de texte comme ça, des petits mots qu'elle fait danser ensemble, c'est vraiment ça. Et si on pouvait imaginer des mots pour la peluche, les peluches, enfin la matière peluche, ce seraient ces mots à Edith Azam, parce qu'elle a vraiment réussi à faire des échos absolument incroyables. De temps en temps, je le rouvre, c'est comme, je sais pas, on sniffe quoi, un petit peu, voilà. Ben, moi, je prends un...
Ah oui, non, mais tout à fait.
On prend des petits mots comme ça, et ça fait trop de bien. Juste, il faut que je retrouve, hein, vous allez me gronder, mais voilà. Soulève juste une plume, et les ailes viendront. Trop beau, quoi. Alors, je sais pas si c'est un haïku dans l'ordre, on s'en fout, mais et puis il y a il y a pas la phonétique arabe, hein, je pense qu'en allant sur le site elle a quelques propositions pour entendre parler cet arabe égyptien. Elle tenait beaucoup à ce que ce soit cet arabe là voilà qui soit écrit. Et Gaël Allard,
alors pour être précis, du coup c'est des croquis de Gaëtan Doremus mis en gravure par Gaël Allard.
D'accord. Voilà. Et c'est complètement déjanté, c'est même sombre parfois, ça peut faire peur, mais il suffit de relire un tout petit mot à côté et tout va bien.
Mmh. Et c'est super beau.
Et on ira voir à Marseille, le port qui jaunit.
Mmh. Oui, on ira à Marseille, mais on partira aussi dans un grand voyage, et ce qu'on va voir avec cet album, donc on est plusieurs à choisir, parce que c'était mon coup de cœur, et je crois que c'est Tom qui l'a adoré aussi. Mmh. Donc ça vaut bien un petit jingle coup de cœur. L'expédition de Stéphane Servant, illustré par Audrey Spiry. Je suis né sur la terre, avec sur mes lèvres encore le goût du sel du ventre de ma mère, et dans mes oreilles le souffle du chant de mon père. C'est peut-être pour ça que, même si je savais à peine marcher, je voulais déjà naviguer. Toute petite, je regardais la ligne droite de l'horizon. Je rêvais d'îles secrètes, de trésors cachés. Et je me disais, un jour, j'irai là-bas. Un jour, j'irai voir ce qui se trouve de l'autre côté. Patiemment, j'ai construit mon embarcation avec 4 bouts de bois, 2 bouts de ficelle et une coquille de noix. Mes parents savaient que rien ne pouvait me retenir sur ce petit bout de terre. Alors vaillamment, ils m'ont aidé. Le jour où j'ai largué les amarres,
Ils m'ont donné le courage, la force et le sourire. La meilleure des armes, la plus brillante des épées. En avant toutes ! J'ai longé les côtes, j'ai tracé vers le large, avec la liberté pour seul maître et le soleil pour unique boussole. J'étais joyeuse. Comme mon père me l'avait appris, je chantais. Bientôt, j'ai traversé des tempêtes, j'ai affronté des monstres marins qui venaient de très loin, du plus profond des océans, celui qu'on porte en soi. Comme ma mère, je n'ai jamais baissé les bras. J'ai croisé d'autres bateaux, des petits, des tordus, des radeaux, de frêles esquifs, d'énormes paquebots. Tous comme moi naviguaient vers l'inconnu de l'horizon. Sans carte au trésor, sans longue vue, vifs comme des poissons. Sur ma route, j'ai aidé des marins égarés. J'ai été secouru, j'ai trouvé refuge dans des ports, dans des bras inconnus. J'ai fait la fière, j'ai joué au dé. Je me suis battu, j'ai aimé, j'ai perdu, j'ai gagné. Pour conserver ma liberté, souvent j'ai bataillé avec mon courage, ma force et mon sourire, pour seule épée. Un matin, sur le pont, j'ai serré un enfant contre mon cœur de pirate. Et dans ses yeux, il y avait déjà tout l'or de l'horizon. Plus loin, plus loin! Comme moi, il rêvait déjà d'îles secrètes, de trésors cachés, de savoir ce qui se trouvait là-bas, de l'autre côté. La nuit venue, je pensais à mon père, ma mère, à mon île d'enfance depuis longtemps disparue. Et je chantais à mon petit la chanson que j'avais apprise, le chant de l'océan, qui dit que rien ne disparaît vraiment. J'ai écumé les mers, j'ai tatoué mon corps, mes joues, mes bras, d'amour et de cicatrices, de blessures et de joie. J'ai poursuivi mes rêves et l'horizon sans cesse. En avant ! En avant ! J'ai vieilli, mon enfant a grandi, et l'horizon toujours plus proche était toujours aussi lointain. Le voyage a duré des semaines, des mois, des années. Ce matin, j'ai vu la terre au loin, un minuscule lopin, un point, presque rien. Fatigué, je me suis étendu sur la plage. J'ai demandé à mon petit devenu grand, « Est-ce qu'on est arrivé ? Est-ce le bout de l'horizon ?» Mon enfant n'a rien dit. Il m'a tenu la main. Il a chanté pour moi la chanson des marins. Alors j'ai su que j'avais trouvé ce que je cherchais. Mon île secrète, mon trésor caché. Ce n'était pas l'horizon, c'était le voyage que j'avais accompli. Mes parents, mes amours, mon enfant, l'aventure de toute une vie. Mon enfant, aujourd'hui je te donne ce bateau. À peine 4 bouts de bois, 2 bouts de ficelle et 1 coquille de noix. Et voici ma force, mon courage et mon sourire, la plus brillante des épées. Va mon enfant, parce que nous sommes des pirates. L'expédition ne fait que commencer. Va mon enfant. Toujours cherche ta liberté. Allez, on va se remettre, on met un petit coup de musique et on en reparle juste après.
Tu seras privé de dessert.
Privé de dessert, j'en ai rien à faire. Moi, ce que je préfère, ce sont les choux verts, 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 verts.
Alors, privé de choux verts.
Privé de choux verts, à la belle affaire. Moi ce que je préfère, c'est les dromadaires, der, der, der.
Alors privé de dromadaires.
Privé de dromadaires, c'est pas bien sévère. Moi ce que je préfère, c'est les vers de terre, 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 terre.
Alors privé de vers de terre.
Privé de vers de terre, c'est pas payé très cher. De loin je préfère les bonnes à tout faire, 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 faire. Les bonnes à tout faire ne sont pas pour me déplaire, mais j'aime entre tout le sirop pour la toux, tout, tout, tout.
Alors privé de tout.
Si je suis privé de tout, ça tombe plutôt bien, parce qu'entre nous, ben moi j'aime rien, 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 rien.
Alors privé de rien.
Moi privé de rien, alors là très bien. Si j'ai ton feu vert, je vais prendre un dessert.
Eh ben oui, nous aussi on va prendre un dessert et puis on va y retourner avec ce magnifique album dont on est forcément obligé de reparler, L'Expédition. Le texte, bah, vous l'avez entendu, c'est un texte magnifique de Stéphane Servan. Et ce qu'on disait avec Tom et Nathan pendant le morceau de musique, c'est que dès les premiers mots,
on est dans l'univers de Stéphane, je trouve qu'il y a, oui. je sais pas, il y a quelque chose qui se passe et on... pourtant il écrit plutôt des romans, mais enfin, s'il a aussi des albums, mais je sais pas, il y a ce goût de l'aventure, ce goût du départ qui est toujours présent.
Et cette poésie des simples petits détails qui tout de suite posent un personnage, un décor, une sensation, presque une odeur. Il a une écriture très sensorielle, je trouve, qui en plus se marie très bien avec là le... ce texte qui, je crois, nous a tous mis une sacrée claque
dans le studio là.
Et du souffle aussi.
Ouais,
du souffle.
Ouais,
on a l'impression qu'on est poussé par un souffle.
Est-ce que vous ne voyez pas, du coup, derrière votre ordinateur, derrière votre radio, c'est l'illustration d'Audrey Spiry qui est juste magnifique. Alors, Audrey Spiry, on la connaît pour ceux qui suivent les littératures jeunesse depuis quelques années. Elle avait fait notamment deux albums magnifiques, Lot et Tempête, qui étaient publiés chez Sarbacane avec des textes de Sandrine Bonini. Et puis une BD aussi dont j'ai mangé le titre, voilà, qui s'appelait En silence, publié chez Casterman. Et là, bah, on retrouve toute sa force, quoi. Cette folie aussi dans les couleurs, dans ce mélange de couleurs qui vient tellement bien à côté du texte de Stéphane Servant. Alors pour vous décrire un peu l'ouvrage, déjà la fabrication est magnifique. On ouvre le livre qu'on pense être un album assez classique et puis on s'aperçoit que finalement la couverture s'ouvre un peu plus qu'on ne pense et fait apparaître une espèce de cahier avec une petite toile collée en fait sur le qui fait très très carnet de bord, très carnet de voyageur en fait, et tout le récit est raconté comme un carnet de voyage. Et c'est vrai que le mélange des deux fait vraiment un album magnifique.
C'est l'histoire de Grand Peut-être, en fait.
C'est complètement l'histoire du Grand Peut-être. Mais tu sais que j'ai pensé, même le texte, c'est vraiment ça, quoi. On est dans les mêmes sensibilités et tout. Donc, c'est...
J'avais juste une question. Vous l'avez trouvé où? Parce que j'ai lu Rabelais un petit peu. J'aimais bien, d'ailleurs. Le Grand Peut-être, vous l'avez trouvé où? Dans une biographie de Rabelais ou...
Bah chez
John Green.
Chez John Green.
Ah, chez John Green.
C'est pas comme s'il venait d'en faire la lecture dans l'introduction de l'émission, quand même.
Non, mais ma question, c'était comment il a trouvé ça, lui? Enfin, où est-ce qu'on peut trouver ça
Eh bien, dans une biographie, apparemment. Ouais, il l'explique à la fin de la Pied Chalasca, toutes ses sources.
D'accord. Oui, non.
Que lui-même, il a été à la recherche de soi-disant dernière phrase.
Parce que je trouve ça terriblement actuel, je sais pas pourquoi. Enfin. Voilà, c'est universel, c'est intemporel.
C'est universel.
Et là, parlons-en justement, tiens, de ce grand peut-être. Parce que je pense que le temps, quand même, qu'on parle un petit peu de ce guide, en fait, que vous avez fait. Hein, parce que c'est vrai qu'on est quand même là pour ça, on vous a invité pour cela. En quête d'un grand peut-être, guide de littérature ado aux éditions du grand peut-être que vous avez créé tous les deux. On en parlera peut-être tout à l'heure. L'origine de ça, effectivement, il y avait cette idée de fêter l'anniversaire des 10 ans de vos deux blogs respectifs. Mais on imagine que n'importe qui a envie de fêter en fait juste 10 ans ne fait pas forcément une bible qui avait manqué pendant toute l'histoire de la littérature ado, donc j'imagine que c'est une idée qui a fait un peu son chemin au fur et à mesure après l'idée de faire des 10 ans. Comment vous êtes vu, voilà, racontez-nous la genèse.
Comme beaucoup de choses qu'on a fait ensuite, on n'était pas ensemble à ce moment-là. Moi j'étais à Dublin et Nathan
À Paris,
voilà. Et on parlait à distance, on disait « Ah oui, t'as pensé en effet à ce que tu vas faire pour les 10 ans de ton blog. » Et puis, un peu émulation collective et créative depuis...
Comme d'habitude, on a été trop loin.
Voilà. L'idée d'une, l'idée
d'une fête avec quelques amis s'est transformée en « On va faire un livre. » Et puis quand on s'est dit « Ok, on va faire un livre, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» On s'est dit « On va faire le livre qu'on n'a pas eu quand on était ado, qu'on n'a pas eu quand on était étudiant. » Et on a fait ce guide de littérature ado.
Mais je pense que si l'idée est venue si naturellement, c'est justement parce que nous, effectivement, on dit qu'on a voulu faire le livre qui nous avait toujours manqué. Donc en tant que lecteur, en tant qu'étudiant en métier du livre ensuite, en tant que professionnel ensuite, en tant que blogueur, en tant que youtubeur, etc. Donc il y avait cette envie qui, en fait, avait toujours été un peu là. Et comme on arrivait au bout de 10 ans de blog, de création en littérature ado pour la défendre, mais aussi d'études dans les métiers du livre et d'expérience professionnelle, on avait aussi l'envie d'arriver à un projet comme celui-ci. Enfin, c'est pour ça que tout est venu si naturellement, je pense, c'est qu'en fait, il était là, mais on ne le savait pas encore.
Oui, et puis on voulait
il fallait aller tailler dans la pierre.
Ils font un peu les modestes, hein, quand même, parce que, quand même, ce guide, c'est une somme de travail qui est quand même énorme.
C'est incroyable.
Alors, ça vous a peut-être semblé simple parce que vous avez baigné dedans. Mais
je parlais juste de l'idée, parce qu'après, il y a eu de la sueur derrière. Mais
effectivement. Vous nous rassurez quand même, parce que c'est un travail de fou, quand même.
En fait, ce qu'on n'a pas fait, entre guillemets, enfin, ce qui était déjà fait, c'était un peu toute la recherche. En fait, en effet, comme disait Nathan, c'est un travail de 10 ans. Donc quand on a fait des mémoires, quand on a fait des articles, donc tout plein de thématiques qui nous intéressaient déjà et auxquelles on avait déjà, si ce n'est sur lesquelles on avait écrit, au moins auxquelles on avait réfléchi, quoi. Et après, après par contre, voilà, il a fallu tout
mettre sur papier. Et comment vous avez trouvé toutes ces personnes qui acceptent de témoigner je pense à... Enfin, dont vous parlez, je veux dire, mais je crois qu'il y en a qui témoignent, ces personnes qui vont vous écrire des nouvelles quand même, c'est incroyable. Parce qu'il faut dire que ce guide est émaillé de nouvelles absolument extraordinaires.
Plein d'auteurs à la fois qui sont maintenant les grands classiques de la littérature française pour ados. Je pense à Laure Bondou,
Timothée Marie Desplechin.
Voilà. Et puis aussi des auteurs et autrices pas moins connus, mais en tout cas qui sont... soit très émergent comme Clémentine Beauvais, soit beaucoup plus, je pense à Anne-Fleur Multon par exemple,
ou Julia Roberts.
Voilà.
On voulait un mélange de
Julia Roberts, je sais que c'est son.
Ah oui, c'est Sarbacane maintenant.
Oui, tout à fait, et c'est son nom de...
C'est la nouvelle éditrice.
Mais qui est aussi autrice, plutôt sous le nom de Julia Thévenot, j'ai défloré son nom.
Ouais, sur les nouvelles, en tout cas, on voulait un mélange de gens qui ont marqué la littérature ado, de gens qui ont marqué aussi nos parcours de lecteurs, et on tenait en effet à avoir aussi des jeunes autrices qui, pour nous, sont l'avenir de la littérature ado.
Mais comment vous les avez convaincus?
Et bah, donc il y a beaucoup de gens, à part peut-être Marie Desplechin.
Vous les connaissiez en fait.
Voilà, on les connaissait.
Oui, déjà
pour la
dans votre parcours, vous aviez tout un réseau déjà. Voilà. Assez...
Et qui nous, en fait, qu'on a suivi sur les salons, comme tu disais dans l'introduction de l'émission. Et que du coup, voilà, on a été les voir et ils ont accepté par amitié d'abord. Et puis aussi parce que je pense qu'ils avaient envie de faire partie de ce projet. Et ils nous ont suivis pour ça. Et après, bah, tous les autres. Personne, c'était pareil, on a fait le livre très collectivement, on avait vraiment envie de le faire en aventure collective avec des gens avec qui on avait envie de travailler, des gens qu'on respectait beaucoup pour leur travail, des gens aussi qu'on savait être dans une même énergie positive de création. On avait envie de faire un ouvrage dans la joie.
Comme Monsieur Simon, ici présent.
Voilà. Et après, bah, on a été chercher aussi quelques personnes un peu en... par Paris, donc Tom Ogoma qui a fait la couverture, ou quand on a fait le portrait de Christine Baker, donc qui a découvert Harry Potter et Pullman en France.
J'ai appris des choses, hein, parce que...
Mais de toute façon, on apprend quantité de choses, c'est
alors
ça qui est génial.
J'ai pas tout fait, parce que je veux vraiment prendre chaque mot, en faire comme une formation. Voilà, c'est ma nouvelle formation. Je fais beaucoup de formations lecture jeunesse qui sont passionnantes, qui sont très creusées. Ouais. Ok, mais ça me manquait, quoi. Vraiment.
Mais je crois que ça manquait à tous les professionnels, mais au-delà des professionnels, et c'est là, je pense, aussi la force de ce guide, c'est qu'il s'adresse aussi à un public beaucoup plus large que juste les personnes intéressées à la littérature ado. Les ados eux-mêmes, et puis vous avez eu des témoignages, on en parlait un petit peu tout à l'heure, avec des étudiants, où vous avez eu des retours d'ados, en fait, qui se sont accaparés le guide, et ça, effectivement, les nouvelles peuvent être une entrée, la sélection des 100 titres, en fait, peut être une entrée par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête avant de lancer le projet ou...
Ouais, bah, c'était vraiment le défi. On savait, entre guillemets, l'intérêt des professionnels pour ce genre de livre, on savait l'intérêt de tous les lecteurs, blogueurs ou juste passionnés de littérature ado. Le défi, c'était d'aller toucher les ados, surtout sur un bouquin plutôt théorique, en fait. Donc, c'est aussi pour ça que les nouvelles étaient là. C'était certes pour nous faire plaisir, parce qu'on a fait écrire des auteurs qu'on adore. C'était aussi pour mettre de la littérature ado dans un livre qui parle de littérature ado. Mais c'était aussi pour aller attraper les ados sur ce bouquin-là. C'est aussi pour ça qu'on a fait en sorte que la mise en page soit attractive, dynamique, qu'on ait vraiment envie d'aller piocher dedans, comme dans un magazine, en fait, et pas comme... un livre plutôt universitaire ou théorique.
Bah, ça marche, hein, ça marche, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, Véro, c'est un livre qu'on picore, en fait. Oui. C'est pas forcément un livre qu'on va lire de manière complètement linéaire, mais on va aller s'intéresser à une nouvelle, un jour, une nouvelle. Après, on va lire
selon
un truc plus théorique,
selon
après un portrait. Et c'est vrai que la diversité comme ça des approches sont vraiment...
Et on l'a écrit comme ça, en fait. On l'a écrit par morceaux aussi. Il y a des portraits qu'on a fait tôt parce qu'on a organisé des rendez-vous tôt avec les personnes qu'on a. Il y a des auteurs qui nous ont livré des nouvelles à plus ou moins à différentes échéances, les parties théoriques aussi, enfin, tout a été écrit comme ça, et je pense que ça vient aussi de nous, de notre parcours de blogueur, où du coup on a une écriture peut-être plus par petits morceaux comme ça, et qui se veut aussi
hyper
moderne
accessible,
et voilà, donc je pense qu'on a ça dans l'ADN
et
aussi
et une
du
mine
bouquin.
De ressources à la fin en plus
la boîte à outils,
ça c'est important aussi d'avoir
aussi pour pouvoir aller plus loin, pour donner aussi tout plein de conseils de gens qu'on suit nous aussi en fait, et qui nous semblent hyper pertinents, et
pour
qui viennent aussi
qu'on
apporter...
pas la... on n'a pas la parole, on n'a pas les réponses,
qui viennent apporter d'autres éclairages, d'autres regards. Et on l'a vu après, il y a deux, trois autres guides qui sont sortis après le nôtre et qui sont tout aussi intéressants, parce que c'est d'autres regards sur la littérature, surtout jeunesse, mais il y a aussi des parties ados dans ces guides-là.
un projet de... Parce qu'à un moment, les sources vont pas se périmer, je dirais, mais de oui, continuer les... dans ce sens-là, de, ouais. de nous éclairer comme avec vos langues de poche. Ça, ça me fait penser à quand on lit sous nos draps et que les parents
oui,
veulent
exactement. Qu'on se couche. C'est ouais, ça c'est vrai, aussi. Ouais. Bah, on a envie de... On sait qu'il y a forcément des choses qui périment dedans. Donc des choses comme... des contenus comme l'historique, par oui, essence, ne vont pas périmer. Mais d'autres, par exemple, à la fin, on parle de tout ce qui est médiation, parcours de lecteur, etc. Ouais. Et dedans, on parle ni de Twitch, ni de TikTok, qui aujourd'hui sont des réseaux sociaux très importants pour les des ados. Vecteurs. Du coup, le livre, en quelque sorte, est déjà presque has-been sur cette partie-là. Mais du coup, on pense un jour faire une actualisation, une réédition, d'accord. un tome 2, on ne sait pas encore exactement.
Besoin,
hein. Mais ouais, même nous, on en a envie. Puisque
on prend rendez-vous maintenant tous les 5-6 ans. Allez, et puis
ça marche.
On dans 5 ans.
Nous, on est là, il hein, n'y a pas
c'était
de problème.
C'était rendez-vous dans 5 ans.
Voilà. Et récemment, parce que l'heure tourne et on arrive déjà presque à la fin de l'émission, c'est fou.
On fait 2 heures.
Oui, on fait 2 heures, allez. là, vous avez choisi à Montreuil dernier de sortir également une carte. Donc, ça s'appelle la carte des 100 incontournables de la littérature ado. C'est la sélection qui est dans le guide que vous avez reprise, en fait. Sauf que là, vous l'avez magnifiée avec une espèce d'objet, donc une vraie carte, une carte au trésor,
avec
en fait.
Des continents.
Hein. On continue avec la lampe de poche à explorer la littérature.
Et avec l'expédition de Stéphane Servan.
Et en plus.
Parce qu'il y a des liens, hein, quand même. On a vu les ponts.
Bah, c'est une carte
flèches,
de pirate, un peu. Hein. C'est,
exactement.
Y a côté, hein, on a ce côté-là. En plus, Daphne Mériot a fait une mise en scène, en plus, de cette littérature de jeunesse où les avait classés, en fait, un petit peu par genre ou par thématique, et elle a reconstitué comme des vraies cartes de à trésor, en fait.
Oui.
Et dedans, on retrouve donc les 100 titres qui ont été choisis de manière collective, c'est ce que vous disiez, oui. avec une centaine de personnes, c'est ça.
Oui, oui.
Et alors, ce qui est super, c'est que vous avez, là, je pense que vous avez pensé aux ados, mais aussi aux lecteurs, et les petits points à cocher, en fait, pour dire j'ai lu ce livre.
C'est la première chose qu'on a envie de faire. Hein.
Bah oui, c'est fait pour
et
ça.
Donc, Simon détient sans doute, sauf si quelqu'un d'autre se déclare le record de livres lus sur cette carte.
Annoncer le chiffre.
Non, mais je pense qu'il y a plein d'autres personnes.
92, disons-le, parce qu'il fait le modeste à son tour.
Ah non!
Bah, c'est ça!
Ah bah, moi 37.
Même nous, on n'a pas.
Nous,
on a,
je suis minable.
On est pas arrivé à 92.
Non, mais je suis sûr que ça va être battu. On lance un appel en fait.
Moi 61, je crois.
Et moi encore un peu moins, 56.
Ah, vous voulez dire que les livres dont vous parlez dans votre. Vous les avez pas tous?
Ah oui, mais c'est pas des chroniques en fait de liste. C'est ça la différence.
Je plaisante.
La liste des 100 incontournables a été construite avec 100 professionnels du livre. Et l'idée, c'était justement de ne pas avoir juste nos coups de cœur, mais d'avoir une liste qui, voilà, les 100 incontournables. Évidemment, elle est critiquable parce qu'il y a toujours eu des choix et d'autres gens en auraient fait d'autres. Mais on a au moins quand même un beau panorama d'une liste un peu d'incontournable de littérature.
Très complète.
Ah, puis c'est une entrée dans cette littérature. Aussi, moi, je pense à tous les parents qui s'inquiètent un peu de ce que peut être, ce que lisent leurs enfants, voilà, qui n'ont pas forcément conscience. Je trouve que c'est une magnifique porte d'entrée, en fait, pour entrer dans cette littérature.
Oui, on a senti que ça... Nous, on parlait tout à l'heure des pros qu'on a touchés assez aisément, des ados qu'on a touchés avec les nouvelles. Et cette liste-là qui est dans le livre, que là, on a décliné en carte, mais qui est dans le livre, a vraiment très, très bien fonctionné auprès des parents et des grands-parents qui sont parfois complètement paumés. En plus, le livre était sorti initialement un peu avant Noël, donc ils étaient un peu ravis.
Et du coup, faire mes cadeaux. Alors là, le coach, c'est plutôt cette année, je lui ai offert ça, les trucs comme ça.
Donc il faut une liste, une carte pour l'enfant et une carte pour le parent.
Voilà, c'est ça.
Et du coup,
et
que
après,
les...
on lance un concours.
Et que les éditeurs qui sont mentionnés se préparent, parce que du coup, on va demander des pourcentages sur les ventes.
C'est vrai.
C'est intéressant de voir. Bon, ça fait participer au développement des ventes. Hein, voilà. Sinon, pour vous, quand on entend ça vous parle ou pas?
Les jeunes adolescents, on a voulu s'intéresser ce soir à la littérature ado, car c'est sans doute une des manières de s'adresser à eux et de briser le tabou et l'omerta. Deux frères jumeaux de 23 ans publient un guide de littérature ado absolument indispensable. Voici Tom et Nathan Lévesque.
Pardon, j'ai oublié le générique. Quand on entend ça comme ça, quand on se retrouve sur les plateaux de télé, qu'on repense en fait à ce que, d'où vous venez, hein, des blogueurs de 13 ans qui ouvrent leur petit blog en province et qui se retrouvent sur un plateau de Quotidien et de Yann Barthès.
Ça fait bizarre d'entendre ça. Je me suis toujours Des fois, je re-regarde l'image, une capture d'écran de l'émission où Yann Barthès tient notre livre entre les mains. Mmh. Je comprends toujours pas comment c'est arrivé.
On dirait que c'est possible.
Mais pour nous, c'était, bon, au-delà du fait que c'était extrêmement stressant ce moment-là, c'était aussi hyper galvanisant parce que, d'une part, nous, c'était une chance immense pour présenter notre livre. Mais en plus, on y allait avec, derrière nous, on avait aussi des messages de soutien quand on allait... enregistrer cette émission, mais on y allait en portant
tout,
la littérature.
Toute la littérature jeunesse, ouais, corporate.
Là, et nous, on sentait qu'on y allait aussi pour montrer sur un plateau qui est vu par 2 millions de personnes que la littérature ado...
Sortir de la niche, quoi.
Ouais, que la littérature ado, elle est là, elle est hyper intéressante. Elle est...
c'est un terme canin, là.
Après les chats de Suzy Boud.
Oui, oui, oui. On fait beaucoup dans
donc c'était hyper galvanisant pour ça, puis je trouve ça montre que la littérature ado, elle en est arrivée à ce point-là. Maintenant, elle a connu un essor immense, je pense, autour des années 2010, après Twilight, Hunger Games et compagnie. Et aujourd'hui, elle est là et elle a d'autres défis. Mais,
et elle a son sérieux.
Et elle a son sérieux, oui.
Et du coup, nous, on a envie de demander après.
C'est ça, c'était ma question.
Bah oui.
Et bien, donc, on travaille à d'autres projets de promotion, mais aussi de création de littérature ado. On aimerait rester un petit laboratoire de création de littérature ado. Donc, le projet qu'on peut déjà annoncer, c'est qu'à la fin de l'année, on travaille avec l'agence Comme J sur une exposition sur la littérature ado, dérivée du livre, notamment pour les bibliothèques, médiathèques. Et après, on travaille à d'autres projets plus éditoriaux qui sont encore... dans les petits laboratoires.
Encore dans les grottes.
C'est bien. Faut que ça expérimente tranquillement. Et puis quand ce sera le temps d'en parler, on en parlera évidemment avec beaucoup de plaisir. Évidemment.
On serait toujours les bienvenus.
Dans la distillerie pour l'instant.
Allez, du coup, on va finir malheureusement déjà l'émission dans très peu de temps. Donc on a juste le temps d'évoquer quelques coups de cœur. Peut-être si vous voulez en parler d'un livre chacun, Nathan, Tom.
Ok, alors je parle en une minute. Moi, j'ai choisi de vous présenter Iron Widow, qui est aux éditions La Martinière Jeunesse. Un roman futuriste, mais qui s'inspire de la Chine impériale. Un roman très, très féministe et avec des thématiques aussi très tournées vers les communautés LGBT et même le polyamour. Voilà.
Typique. Qu'on n'avait jamais vu, à ma connaissance, en littérature ado.
Rarement que ça existe, mais rarement.
Un roman qui est plein de colère et plein d'émotions, mais aussi plein de belles choses, justement, et qui est un vrai page-turner. Vous commencez, vous ne pouvez plus le lâcher. Vous le lisez avec la lampe torche sous la couette, c'est bon.
Et la Chine qui n'est pas très, très présente non plus en termes d'univers.
Ouais, moi, c'est ça qui m'intéresse.
On a le Japon avec le clan des Otori, avec mais la Chine, en fait, est assez peu.
C'est ça, ouais. C'est de la SF avec un univers assez nouveau. Enfin, moi, je trouve que ça change un peu en littérature. Alors, Xiran J. Zhao, je prononce sans doute très mal. Je sais que sur son site, il explique, enfin, Yael explique, puisque c'est un autoris non genré, comment se prononce son nom, mais j'ai pas révisé. Je suis désolé.
Non, c'est juste l'éditeur.
Il est américain.
La Martinière Jeunesse Fiction. C'est ça.
Ouais. Il est pas du tout, il est américain.
Américain, mais américain d'origine
sino-américaine.
Ouais, c'est ça.
Tom, moi, je voulais parler de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, un de tes collègues libraires, qui sort son premier roman chez l'École des loisirs, qui est un roman dans la collection neuve, donc plutôt pour les plus jeunes, mais que moi j'ai trouvé être accessible, être un vrai roman familial, comme l'a été Toby Lulness quand il est sorti et qu'il l'est aujourd'hui. Plein de charme, donc une histoire de librairie dans la forêt avec des exemplaires de livres uniques et une taupe qui arrive paniquée parce que son exemplaire de livre unique, en fait, qui sont ses mémoires, a été vendu la veille. Or, cette taupe a la maladie de l'oubli-tout et doit absolument retrouver ce manuscrit. Donc avec le libraire Archibald le Renard, ils partent en quête du mystérieux acheteur qui est parti la veille avec ce manuscrit. Et voilà, c'est illustré par Sanoé, c'est une illustration un peu jabonisante, très belle.
C'est super beau.
Ouais.
Ah, c'est
donc,
trop beau, c'est trop beau.
À voir sur le site, il y a des aperçus, des illustrations. L'écriture est pleine de charme aussi. C'est vraiment à dévorer seul ou en famille, mais en tout cas sans modération.
Un livre qui n'est pas encore sorti. Là, on sent le blogueur
qui annonce en fait. Je cherchais sur la table, mais bon.
C'est ça. Il est ici.
Ah, voilà. Il est ici.
Il existe en vrai, il existe en vrai quand même. Ouais, non,
ah,
il est
oui,
très,
oui,
très
oui,
bon.
Oui, je vois, oui.
Et très juste pour le mentionner, en BD, je vous conseille La Dame Blanche de Quentin Zution aux éditions Le Lombard pour les plus jeunes adultes, qui est une pépite de BD aussi.
Est-ce qu'on peut se permettre de conseiller tout Quentin Zution?
On peut se permettre.
On peut faire ça. Voilà.
Tout à fait.
Allez découvrir, c'est effectivement un auteur, illustrateur qui est absolument Absolument génial. J'ai pas mal chez Payographique, d'accord, les premiers, tous les premiers.
Chez Lapin, notamment Chromatopsie, qui pour moi est sa meilleure BD. Et après le Payot, le Lombard. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre, Véro?
Plein de choses. Vite fait pour Jemima Small de Tasmin Winter chez Slalom, qui nous surprend de plus en plus. C'est l'histoire d'une jeune fille, 13 ans, en surpoids, qui vit dans une famille un peu brinque-ballante, mais bienveillante et très maladroite aussi, la famille. Évidemment, très harcelée par... Enfin, je dis évidemment, hélas, très harcelée par son physique. Et en même temps, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Je vais juste lire quelque chose. Je vais y arriver. Voilà, c'est ça. Sa mère est partie, elle était toute jeune, et elle dit... Elle est très scientifique, elle a des logiques très scientifiques. Le cœur humain dispose de 4 chambres, c'est écrit dans mon livre d'anatomie. Ma théorie, c'est qu'il existe une 5e, invisible. C'est là qu'habitent les personnes qu'on aime. Cette chambre-là est, sans issue, sans échappatoire. Une fois qu'on y est entré, on y reste. On ne peut plus disparaître. Voilà comment je sais que Jasper et moi vivrons toujours dans le cœur de notre mère. Oh. Voilà. Donc c'est juste pour vous donner un petit aperçu de la délicatesse, parce que c'est une histoire qu'on va retrouver un petit peu souvent, la trame et tout. Et là, ça sort du lot par sa délicatesse, et c'est des personnages extrêmement touchants, c'est magnifique, voilà.
Et c'est super, moi j'avais aussi un coup de cœur, mais je vais attendre une émission, parce qu'il me faut un peu plus de temps, ça s'appelle Les Longueurs de Claire Castillon. Et désolé, j'ai besoin d'un peu de temps, un peu de longueur justement pour parler de ce livre qui m'a complètement bouleversé. Et Tom est d'accord.
En plus, Véro, vous
l'aurez lu aussi, voilà, donc comme ça on pourra en discuter. C'est un des grands livres en fait de ce début d'année. On en reparlera lors de la prochaine émission. Là, on avait vraiment plein d'autres choses à parler.
Ah ouais, puis merci beaucoup.
Merci beaucoup, Tom. Merci beaucoup, Nathan.
Merci à vous. Avec grand plaisir.
Voilà, plein de chaleur dans le studio.
Belle émission.
Tous ceux qui nous écoutent, je vous invite vraiment à découvrir ce guide si vous ne le connaissez pas déjà. Ça s'appelle Enquête d'un grand peut-être, guide de littérature ado. C'est écrit par Tom et Nathan Lévesque. Et puis pour ceux qui veulent cocher, hein, pour faire leur score, n'hésitez pas
à
acheter
aussi
la carte des 100 incontournables de la littérature ado. Et puis pour tous les gens qui vont dans la bibliothèque, demandez d'acheter la future exposition qui va être faite en fin d'année. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir à notre micro. Merci Tom.
Merci de nous avoir reçus.
Au revoir.
Véro,
Tom,
merci.
Revoir,
Philippe, merci pour la technique, comme d'habitude, fidèle au poste. Et puis on se quitte comme d'habitude en musique avec Pascal Parizeau et Mamie Nicole.
Et c'est chat.
Non, Mamie Nicole.
Mamie Nicole.
Ma mamie s'appelle Nicole. Elle a connu les dinosaures. Ma mamie s'appelle Nicole, et leur nom a couché dehors. Elle a connu personnellement les Rogers et les Fernand. Elle a connu les Jacqueline, les Léonzelles et Léontine. Ma mamie s'appelle Nicole, c'est une mamie dont le prénom de Nicole est en voie de disparition. Tout comme les André, les Robert, les Josianes et les Josettes, les Jean-Claude et les Jean-Pierre, les Bernards et les Bernadettes. Ma mamie s'appelle Nicole, elle a épousé mon papy. Ma mamie s'appelle Nicole, et mon papy lui c'est Henri. Ensemble ils ont eu 3 enfants, Patrick, Eric et Nathalie, qui ont joué avec les Christian, les Isabelle, les Pascal et les Sylvie. Les 3 enfants se sont mariés, ensuite ils se sont reproduits. Et oui, les Sébastien sont arrivés, les Laetitia, les Jérémy, les Guillaume, les Manus et les Claire, les Ludovic et les Sandrine, juste un peu avant les Jennifer, les Samanthas et les Kevin. Et là, on est tous arrivés. Les Enzo, les Chloé, les Matisse, les Louise et les Anaïs, les Matteo, les Esteban, les Nathan, les Océane, les Lila, les Lilou, les Louane, les Yanis et les Ethan, les Manon, les Noah, les Gabin, les Sachas et les Martin, les Hugo, les Théo, les Sarah et les Lucas, et c'est mon cas. Je ne suis pas seul dans mon cas. Dans ma classe, on est 8 Lucas, tout
comme les Nicole autrefois. Ma mamie s'appelle Nicole. Ma mamie s'appelle Nicole. Mamma mia, ma mamie s'appelle Nicole. Oh mamma mia, ma mamma mia s'appelle Nicole. Mamma mia, ma mamma mia s'appelle Nicole. Oh mamma mia, ma mamma mia s'appelle Nicole. Mamma mia, ma mamma mia s'appelle Nicole.